Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon dimanche à l'écoute d'RTL. Bonjour Sidonie, ça va ?
Oui, très bien, bonjour Thomas, salut à vous les curieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour découvrir ou réécouter les meilleurs moments de l'émission. Tiens, dans la seconde partie de l'émission, on va faire entrer un ours dans le studio.
C'est gentil de parler de moi.
Ah non, pas l'ours à chemise, hein, mais plutôt l'ours à lunettes ou encore l'ours
aussi.
Blanc. Savez-vous quand il est
blanc.
Apparu et avez-vous déjà assisté à la naissance d'un ourson,
ah,
Thomas ?
Ça, non.
Voilà. Et ben notre invité répondra à toutes nos questions de curieux sur ces plantigrades qui nous ressemblent beaucoup.
Et tout de suite, des femmes qui ont assumé leur pouvoir de séduction, leur infidélité, leur ambition, leur gourmandise pour le sexe. Et les hommes, portraits de ces femmes qui assument leur surnom de salope de l'histoire.
La curiosité est un vilain défaut.
Appréciant la compagnie de Cléopâtre, César décida de retarder son retour pour Rome. Il est évident qu'une passion amoureuse animait ces deux êtres.
RTL.
Thérésia Thalien va entrer dans l'histoire.
Elle provoque la chute de l'incorruptible Robespierre.
L'existence de Messaline se déroule dans le décor privilégié des palais impériaux. Prostituée, mariée à 14 ans, elle devient la troisième épouse du futur empereur Claude.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Cléopâtre, Madame Thalien, Messaline, la reine Margot, Joséphine de Beauharnais, Matahari, toutes des salopes et fières de l'être. C'est le portrait de ces femmes passionnantes qui ont assumé leur beauté, leur séduction, leur intelligence, leur envie de jouir, de posséder. À notre micro, Agnès Grossmann. Vous êtes journaliste et vous adorez dresser des portraits pour la télé, mais pas que. Les salopes de l'histoire, c'est le titre de votre livre, publié chez Acropole. Salope, c'est pas facile comme mot à dire et à utiliser.
Moi, je trouve que c'est très facile
à entendre.
C'est peut-être plus facile à dire qu'à entendre. Ça claque, c'est comme un étendard, c'est rigolo.
Ça vient d'où ce mot ? Ça veut dire quoi, vous savez ?
Alors, en fait, au départ, ça voulait dire, ça vient salaud et salaude, qui était une façon de dire de quelqu'un qu'il était très sale, mais physiquement très sale. Et puis après, ça s'est un petit peu déporté vers la salissure morale, et particulièrement vers les prostituées. Donc ça voulait dire pute, en fait.
Et votre définition à vous ? Pourquoi vous choisissez ce titre pour définir ces
femmes ?
Parce
que moi, en fait, je voulais travailler sur les femmes qui ont une sexualité libre. Et quand j'en parlais à mes amis, je disais, ouais, je veux travailler sur les femmes qui ont une sexualité libre, sur celles qu'on appelle les salopes. Et souvent, quand ils me demandaient de mes nouvelles, de l'avancée de mon bouquin, ils me disaient, alors, t'es salope, comment elle se porte ? Parce que c'est rigolo, c'est un terme qui fait rigoler tout le monde. Parce que la femme sexy, la femme sexuelle, quelque part, ça titille tout le monde, ça titille l'imagination, et puis ça fait rire. Et donc, j'ai gardé ce terme, puisque justement on les appelle comme ça, les femmes.
Et parce qu'elles l'ont accepté et revendiqué aussi ce mot de salope.
Elles ont assumé complètement leur sexualité. À l'époque de Cléopâtre, le mot salope n'existait pas, mais le mot pute, le mot catin existait. Mmh. Et on l'appelait la putain couronnée. Même des gens comme Plutarque, comme Tacite, lui ont donné des noms incroyables, enfin de sale pute. Bref, je vous passe les détails. Est-ce qu'elles le revendiquaient Je ne sais pas si elle le revendiquait. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elle ne rougissait pas sous l'insulte. Alors, elles étaient un peu hors de portée parce qu'elles étaient très haut quand même dans la société. Et elles ne se souciaient pas du qu'en dira-t-on. Et je pense que beaucoup de femmes se soucient, ont peur qu'on les traite de salopes. Alors, comme ça, c'est fait.
Alors, par exemple, quand Cléopâtre se présente pour la première fois à Jules César, elle arrive enroulée dans un tapis, elle est nue. Ah non, elle ne
elle
se soucie pas du qu'en dira-t-on.
Ah non, elle est très libre. Mais c'est une époque aussi où on est très libre avec son corps. Hein. C'est avant Jésus-Christ, et c'est vrai que Jésus-Christ, il a un petit peu plombé le truc.
Il n'y a pas la morale chrétienne.
Avant, le sexe, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, et on jouit de toutes ses facultés. Mais ça prouve qu'elle est brillante, parce qu'elle se fait enrouler dans un tapis, elle s'est parée avant, parce qu'elle avait un grand sens de se mettre en valeur. Elle s'est fait rouler dans un tapis pour arriver, pour déjouer, en fait, les hommes armés de son frère qui veut la tuer, en fait, pour pouvoir entrer dans le palais d'où elle est chassée pour rivalité, en fait, avec son frère. Et elle s'est fait enrouler dans un tapis. Et ce qui est effectivement extrêmement brillant, c'est qu'elle se déroule, qu'elle est belle et qu'elle regarde César et elle lui dit en latin « Salut à toi, César ».
Elle veut le séduire.
Ah oui, bien sûr qu'elle veut le séduire.
Et ça marche. Elle est belle, elle est cultivée, c'est une reine. Est-ce qu'elle a appris le sexe, ou est-ce que c'était un tabou dans son éducation?
Alors,
de
c'est
future reine?
C'est absolument pas un tabou à l'époque, le sexe. Il y a des esclaves partout qui servent aussi à faire l'amour. On les prend souvent beaux. Enfin, en plus, c'est un pays très chaud. Les gens sont quasiment nus tout le temps. Non, elle a été formée par des esclaves. Elle a eu un amour qui était le fils de Pompée, mais qui est reparti par la suite. Mais elle a appris le sexe. Oui, on lui a appris tout ce qu'il fallait apprendre. Et elle était douée.
Mais alors, c'était pas juste une femme qui aimait le sexe. Même même si c'était que ça, ce serait formidable déjà, mais c'est elle qui ouvre les yeux à Jules César, qui lui fait découvrir le monde et son pays, notamment la Grande Égypte.
Alors, elle était très fière de son pays, elle se sentait reine, et c'est vrai qu'elle était quand même vassale de Rome. Elle était la captive, en fait, de Jules César, ce qui ajoutait peut-être d'ailleurs à leur tension érotique. Et c'est vrai qu'elle était très fière de son pays, que lui, elle lui organisait un voyage de 2 mois, elle a fait la descente sur le Nil, qui aujourd'hui encore reste un voyage merveilleux à faire.
Une croisière romantique avant
l'époque.
Absolument,
voilà. Romantique à la Cléopâtre. Et alors, à l'époque, il y avait les pyramides, il y a toujours les pyramides, le Sphinx, Karnak, etc., mais évidemment, évidemment, c'était dans leur grande beauté et complètement à leur apogée. Et c'était une merveille. Et c'était un peuple qui avait un sens du religieux, dans le sens relié au ciel en permanence. C'était un pays grandiose. C'était une très, très grande civilisation, l'Égypte. Et c'est vrai que Jules César a été très séduit et par Cléopâtre et par l'Égypte.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les salopes de l'histoire, de Messaline à Matahari, c'est le titre du livre de notre invité Agnès Grossmann. C'est publié aux éditions Acropole. On vient de découvrir trop rapidement, mais il faut lire le livre pour avoir la suite, l'histoire de Cléopâtre. Allez, on va voyager dans le temps jusqu'au 16e siècle.
C'est joli, ça, découvrir, ça a plusieurs sens en fait.
Mais exactement, c'est le bon mot. On est au 16e siècle et on va raconter l'histoire de Marguerite de Valois. On l'a surnommée la reine Margot. C'est la fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. On a cité tout à l'heure la phrase que vous utilisez pour la décrire. Vous dites quoi ?
Le sexe est son royaume, la jouissance sa couronne.
Pourquoi vous dites ça ? Elle a eu beaucoup d'amants ?
Elle a eu beaucoup d'amants. Elle en a eu autant qu'elle en voulait. Elle a eu surtout beaucoup de jouissance. C'est quelqu'un qui avait la sexualité facile, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Et puis surtout, c'était sa liberté, parce que ça a été une fille, une femme très contrainte. C'était une fille d'eux. Et c'était une sœur d'eux, surtout.
Ah oui, elle a...
Ça, et tout le monde lui tombait plus ou moins dessus, à bras raccourcis.
Alors, attendez, quand vous dites tout le monde lui tombait dessus à bras raccourcis, c'est un euphémisme. Parce qu'en fait, ses frères, d'après ce que je comprends en vous lisant, ses frères qui étaient tous un peu tarés, un peu fous, profitaient de son corps, c'est ça, dans tous les coins du Louvre ?
Alors, ils étaient tarés, mais ils étaient brillants, les Valois. Ouais. Mais ils étaient physiquement déjà tarés. Ils étaient tous en mauvaise santé, à part la reine Margot, qui était éblouissante de santé et qui, elle, est morte à 62 ans. Mais les enfants Valois, en fait, Catherine de Médicis et Henri II ont eu 10 enfants. Il n'y en a que 2 qui ont passé les 30 ans, en l'occurrence, c'est Henri III et Marguerite de Valois.
Donc, ils couchaient avec leur sœur ?
Ils couchaient avec leur sœur. Ils étaient incestueux, les Valois, incestuels. Incestuels et incestueux. Ça veut dire que la mère était très proche de ses enfants. Enfin, elle n'a pas du tout couché avec. Mais c'est vrai qu'on soupçonne fortement Henri III d'avoir dépucelé sa sœur. Et elle était très belle. Et elle était très libre.
Elle en souffrait.
Et eux-mêmes avaient une sexualité un petit peu indistincte. Ils s'habillaient en femmes. Ils ont couché avec des hommes, avec des femmes. C'est vraiment à la cour des Valois. On couchait beaucoup à l'époque.
Et si on revient sur l'histoire de Marguerite de Valois, son premier amour, c'est Henri de Guise. Amour impossible. Pourquoi ?
Parce que la famille de Guise était très rivale des Valois et ne demandait qu'une chose, à prendre le pouvoir. Donc, quand François de Guise est tombé dans les filets, si je puis dire, de la reine Margot, enfin de la princesse Marguerite de Valois, il s'aimait beaucoup, c'est un vrai amour, mais ça aurait été un accès direct au trône. Et ça, la famille Catherine de Médicis n'en voulait absolument pas.
Alors, ce qu'on découvre dans votre récit sur la reine Margot, Agnès Grossmann, et c'est passionnant, c'est que ses frères l'ont empêché, ont essayé d'abîmer sa sexualité et son bonheur toute sa vie à la reine Margot, et notamment, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'un de ses amants absolument adorés ? Il faut passer au nom, il s'appelait Joseph Boniface de La Mole.
Il l'a un petit peu cherché. C'est-à-dire qu'il a fait partie d'un complot qui visait à faire échapper du Louvre Henri de Navarre et Marguerite de Navarre, ils étaient mariés depuis peu. Et ils étaient emprisonnés par Catherine de Médicis, qui voulait les garder en otage parce qu'elle craignait, suite à la Saint-Barthélemy, une vengeance des protestants. Donc il voulait les aider à s'échapper, il s'est fait prendre. Donc il a été torturé de toutes les façons possibles, imaginables. Et à l'époque, Dieu sait si on avait de l'imagination. Puis après, on lui a coupé la tête et on l'a coupée en morceaux.
Donc vous le disiez, Agnès Grossmann, la reine Margot était mariée, enfin Marguerite de Valois, avec Henri de Navarre. Et alors on peut dire qu'ils étaient très différents, ces deux-là, notamment en raison de la propreté. Ils n'avaient pas la même image et le même désir de propreté l'un et l'autre.
En fait, Henri de Navarre, le futur Henri IV, c'était un petit peu un pecno.
Et il ne s'est jamais lavé, en fait, Henri de Navarre.
On ne se lavait pas, mais à l'époque, on ne se lavait pas. À l'époque, on ne se lavait pas parce qu'on était persuadé que les virus, enfin, on n'appelait pas ça des virus à l'époque, en tout cas que le mal entrait à travers la peau et que la saleté, une couche de saleté, protégeait la peau. Donc, Henri de Navarre ne se lavait jamais.
Mais alors, la reine Margot n'avait pas envie de faire l'amour avec lui, c'est ça?
Si, bah, la reine Margot, pour qu'elle dise non.
Avec un pince-nez.
Non, c'est pas ce qu'elle préférait chez lui. Mais en fait, il avait une espèce d'odeur, vu qu'il ne se lavait jamais. Il appelait ça son fumet, d'ailleurs. Oui. Et lui, il trouvait ça très excitant, puisqu'il a même eu des maîtresses à qui il a demandé de ne pas se laver. Vous voyez ? Donc lui, c'était son truc. Mais à l'époque, personne ne se lavait. Diane de Poitiers prenait un bain tous les jours.
Diane de Poitiers, qui était la maîtresse de son père.
Était la maîtresse d'Henri II. Voilà, et Marguerite, et elle a appris à Marguerite à prendre un bain, elle en prenait une fois par semaine. Et tous les jours, elle faisait une toilette de chat. Mais c'était rarissime à l'époque.
Et ce que vous expliquez aussi, c'est que si la reine Margot s'en donne à cul-joie, ça c'est une expression que j'ai inventée, que j'aime énormément, c'est qu'en fait, sa mère, Catherine de Médicis, n'a jamais eu de plaisir et elle voulait être différente de sa mère.
Ben, elle n'a pas eu de chance, Catherine de Médicis, parce qu'elle a épousé Henri II, qui n'était pas censé être roi au départ, hein, qui est devenu roi parce que son frère aîné est mort. Et donc, elle se retrouve sur le trône. Et en fait, quand elle l'épouse, il y a déjà une femme qui est Diane de Poitiers, qui est la maîtresse attitrée de son mari. Et c'est avec Diane de Poitiers qu'il aime faire l'amour et prendre du plaisir.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
16 décembre 1809. Joséphine arrive à la Malmaison faute d'avoir pu donner un héritier à l'empereur. Elle a divorcé de Napoléon la veille.
La curiosité est un vilain défaut.
Ma belle Russie, je suis arrivée ici en 1744. L'Empire avait besoin d'une épouse pour le futur tsar de toutes les Russies.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
On va raconter maintenant l'histoire de Catherine II de Russie, juin 1762. Elle monte sur le trône après un coup d'État contre son mari, l'empereur Pierre III, le troisième. Oui. Pourquoi il lui en veut ?
C'est pas tellement qu'elle lui en veut, c'est qu'il y a une guerre de pouvoir. Ça veut dire que déjà, il se déteste. Et c'est un gars, il s'est mis tout le monde à dos parce qu'il aime l'Allemagne. Enfin bref, il déteste la Russie. Et en fait, il a été catapulqué sur ce trône par sa tante Elisabeth Ier. Enfin bref. Mmh. Et puis, en fait, il a déjà prévenu que s'il montait sur le trône, s'il devenait empereur, il exilerait Catherine, voire il la tuerait. Donc, elle décide de le prendre de court. Elle fait un coup d'État. Elle est soutenue par une partie du peuple russe et puis par les frères Orlov qui font partie de la garde impériale. Enfin, elle est soutenue par la garde impériale et c'est elle qui l'emporte, si je puis dire. Et donc, elle va faire le coup d'État, elle va l'emporter et quelques semaines plus tard, Pierre III mourra de façon accidentelle.
Alors là, vous avez raconté toute l'histoire. Il faut revenir aux raisons pour lesquelles elle est choisie. On l'a choisie, et c'est une erreur, en pensant qu'elle est quoi ? Insignifiante, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est une Allemande, Catherine II. Elle n'est pas du tout russe. Ouais. Hein. D'ailleurs, elle s'appelle Sophie au départ. Elle s'appelle Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst. Et en fait, elle est choisie, effectivement, parce que c'est une petite noble, assez loin de la cour. Elle est jolie, mais on la veut insignifiante. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, ceux qui vont la choisir, Elisabeth Ier, c'est que c'est une gamine toute jeune qui a un terrible appétit de gloire. Et quand on lui dit à 14 ans qu'elle va épouser peut-être le futur empereur, elle est absolument ravie. Elle considère que sa chance lui sourit.
L'ambition, c'est son moteur.
Ouais, elle est très ambitieuse. Elle est comme ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le destin qui va venir la chercher dans sa petite province. Mais le destin tombe sur une fille qui est avide de gloire.
Si on pousse la porte de la chambre à coucher, c'est ça qui nous intéresse aussi, Agnès Grossman, ce soir dans La Curiosité. Entre Catherine II et Pierre III, ça se passe comment ? C'est plutôt un type.
Ça se passe pas en fait,
sauvage.
Il est un peu débile. Il faut dire qu'il a une enfance très malheureuse. Il s'est mal développé à tout niveau. Et le pauvre, il a un défaut qu'avaient pas mal de gens à l'époque, parce qu'aujourd'hui on donne un petit coup de bistouri. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, l'homme ne peut pas vraiment, enfin son sexe ne peut pas vraiment se déployer. Donc il peut pas la satisfaire. Et en plus il s'en fiche. C'est un enfant. Il fait venir ses chiens dans le lit. Il joue aux petits soldats. Il attrape des souris et fait des combats. Enfin bref.
Et donc la mère de Catherine II lui conseille de prendre un amant.
Alors c'est pas
ça. La mère de Pierre III.
Sa tante.
Ah, fait, sa tante. Il y a beaucoup de femmes autour de.
Et oui, il y a beaucoup de femmes
à la cour.
Il y a eu beaucoup de femmes impératrices, plusieurs femmes impératrices de Russie.
Et alors,
elle lui dit, au bout de 8 ans, il ne se passe rien. Elle lui dit, ça serait bien que tu aies un héritier. Pour avoir un héritier, il suffit de coucher avec un homme. Et elle va lui choisir plus ou moins un homme qui est Saltykov, qui est réputé pour être un bon amant.
C'est le beau Serge, c'est ça ?
C'est le beau Serge, Saltykov. Il a, elle a 23 ans, elle, hein, elle est vierge, elle a 23 ans. Lui, il en a 36, donc il a 13 ans de plus. C'est un libertin qui va tout lui apprendre et qui va aussi beaucoup la faire souffrir parce qu'il va la laisser plus ou moins tomber. Donc il va tout lui apprendre de l'amour.
Et elle aura un enfant avec lui ?
Ça... Elle aura sans doute.
Ça alors, marche, on sait le pas. Conseil a été bien suivi.
Alors, on sait, elle aura un enfant qui va être le petit Paul, mais on a toujours un doute parce qu'entre-temps, on avait opéré Pierre III. À ces époques-là, bon, le sens politique l'emportait des fois sur l'amour, le sens amoureux. Donc peut-être qu'ils ont un petit peu fricoté quand même ensemble pour essayer d'avoir un héritier. Il y aura toujours un doute sur la légitimité.
Et puis lors d'un bal en 1755, il y a un nouvel ambassadeur d'Angleterre qui débarque comme ça avec son secrétaire à la cour de Russie. C'est Stanislas Poniatowski. Et là, c'est encore le coup de foudre pour Catherine II.
Alors, coup de foudre, c'est un grand romantique. Ils ont beaucoup d'affinités intellectuelles. Catherine II était une grande intellectuelle. D'ailleurs, on disait, si elle avait été un homme, on aurait dit que c'était un intellectuel. Là, on ne le disait pas. On disait éventuellement qu'elle était intelligente, mais ce n'est pas quelque chose qui se disait, alors qu'elle était très, très intello. Et en plus, là, c'est elle qui va un petit peu le déniaiser, lui apprendre l'amour, ce qu'elle aimera toujours faire, parce que elle aura souvent des amants plus jeunes qu'elle.
Ils vont avoir un enfant. Et alors, je découvre dans votre livre que ces enfants sont confisqués à la
Elisabeth
à Catherine
II. Ses enfants. Ouais.
Ça veut dire quoi confisquer ses enfants ?
C'est-à-dire que dès qu'elle a accouché, Elisabeth première vient chercher le petit Paul, puisque elle le prend et sa mère le reverra des semaines après. Et d'ailleurs, elle le reverra des semaines après pour pas longtemps. Et en fait, elle l'élèvera pas. C'est Elisabeth première qui va l'éduquer. C'est horrible. Elle en souffre sur le moment énormément, après elle s'y fait, et elle fera la même chose à son fils, parce que Paul va grandir, parce qu'en fait, quand elle arrivera au pouvoir, il n'aura que 8 ans, donc elle pourrait le récupérer et s'en occuper. Mais elle ne s'en occupera jamais vraiment, d'autant qu'il est en rivalité avec elle, puisque lui est légitime sur le trône de Russie, alors qu'elle est un peu une usurpatrice. Donc elle va toujours le maintenir à distance, elle ne sera pas sympa avec son fils, mais il aura des enfants, et notamment Alexandre, enfin, et elle sera une grand-mère extraordinaire, et elle fera à son fils exactement la même chose qu'on lui a faite. Ça veut dire qu'elle va confisquer le petit Alexandre et c'est elle qui l'élèvera.
Merci beaucoup, merci Agnès Grossmann de nous avoir fait partager ces destins de femmes, les salopes de l'histoire de Messaline à Matahari. Votre livre est publié aux éditions Acropole. Merci.
Merci. Ne pas vendre la peau de l'ours avant d'en avoir parlé.
Avec Paprenel et Nicolas, ils sont là, c'est trop bien.
Et rendez-vous dans un instant sur RTL.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.